Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ sur radioallianceplus.fr. Vous écoutez notre deuxième émission d'une série qui s'intitule « Et si on parlait des Qatars ?». Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis, j'anime cette émission, mais avec un intervenant, un invité permanent, le pasteur Michel Jaz, passionné par les Qatars, leur histoire, leur vie, les polémiques autour de ces croyants. Parce que ce qui est important, c'est qu'ils étaient des croyants. Bonjour à toi Michel et merci d'être avec nous pour Bonjour. Partager ta passion des Qatars. Peux-tu nous raconter, tu l'as fait la première émission que nous avons eue, peux-tu nous raconter ta toute première rencontre avec les Qatars ?
Voilà, alors donc j'ai rencontré un peu ce sujet, même avant de connaître le nom de Qatar. Et puis...
Avant de naître.
Non, mais c'est-à-dire, voilà, donc j'ai été confronté par le problème du mal. La précédente émission, j'ai parlé du souci de mon père d'essayer de trouver des cousins qui portaient le nom Jaz. Et puis, la famille a été décimée pendant la guerre de 14. Mais aussi, j'étais très marqué par le cousin germain de ma grand-mère de l'autre côté, qui était très, très gentil. Et il venait voir ma grand-mère le dimanche après-midi. Il était protestant, etc. Mais il n'allait plus au culte depuis qu'il ait perdu son troisième fils. Il a eu trois garçons.
Oui.
Et en fait, j'ai souvent pensé à lui parce qu'en fait, quand j'étais pasteur ici à Nîmes, au Grand Temple, oui. Il habitait tout près du Grand Temple. Et je savais qu'il avait dit au pasteur, après les obsèques de son troisième fils, c'était ouais. Avant la pénicilline, quoi. Ouais. Et il a dit, on continuera avec ma femme à payer notre cotisation parce qu'on est protestant, on aime les Cévennes, etc. Mais on ne viendra plus au culte. On lira plus la Bible et on ne viendra plus au culte. Voilà. Et en fait, c'est parce qu'il avait perdu son troisième. Donc, cette histoire m'avait ouais. vraiment touché parce qu'il était très, très gentil. Et puis après, quand j'ai commencé à être pasteur dans les années 80, j'ai dû accompagner, alors, trois fois, c'est arrivé à trois reprises, mais vraiment, ça m'a impressionné, des familles qui, dont ils avaient un enfant qui mourait d'un cancer. Et ça m'est arrivé trois fois. Donc j'étais vraiment confronté au problème du mal. Et c'est la question pour le qatharisme. Un des derniers livres sur le qatharisme est écrit par un Anglais, un Américain, mais Mark Swanson, et qui parle de la logique qatar. Il commence comme ça, la logique théologique qatar. Il dit, c'est le problème du mal. Les Qatars essaient, avec la Bible, de répondre au problème du mal. Et en fait, c'est vrai. Alors donc, j'ai été marqué, vous voyez, quand j'ai été confronté à ces familles qui ont eu... je devais visiter ces enfants. Moi, ça m'est arrivé trois fois, mais la première fois, ça m'avait vraiment secoué. C'est-à-dire que j'allais visiter cet enfant tous les deux jours, je le voyais, et il déclinait jusqu'à sa mort. Et donc, j'ai été aidé par un texte, un vieux livre de Wilfred Monod, et qui est le père de Théodore Monod, le saharien. Et Wilfred Monod avait écrit « Aux croyants et aux athées », et puis « Le problème du bien », mais en fait, c'était le problème du mal. Et c'est des textes très intéressants par rapport à cette question, le problème du mal, ou comment penser Dieu, non pas comme explication du monde, mais au contraire, comme contestation du monde. Et quand j'avais fait lire « Aux croyants et aux athées » de Wilfred Monod, à Jean Duvernois, le grand spécialiste des Qatars qui a travaillé sur les 16 registres de l'Inquisition, il m'a dit « Mais c'est incroyable, j'ai jamais lu de livre, c'était quelqu'un, il lisait énormément, jamais lu de livre aussi proche de la théologie qatar. »
Qui expliquait la théologie qatar.
Et c'est assez proche. Sans parler des Qatars, le Wilfred Monod rejoignait un peu la théologie qatar. Mais il y a, on pourrait dire, dans l'orthodoxie chrétienne, russe, et Berdiaev, ça ressemble un peu du qatharisme. Ouais. Dans le catholicisme, Maurice Zundel, qui est énormément apprécié par les cathos d'ouverture, eh bien, ça ressemble au qatharisme. C'est une pensée chrétienne qui ne justifie pas le désordre établi, mais au contraire, comme une espérance qui pense à nous tourner nos regards et nos pensées vers un ailleurs.
Donc, c'est ça qui t'a fait t'accrocher au Qatar, si j'ose dire.
Oui, oui.
Très bien.
Donc j'ai travaillé l'aspect sociologique, je voulais expliquer la dernière fois, l'aspect sociologique entre les régions autour de Toulouse qui ont connu le catharisme et puis qui ont connu le protestantisme, savoir si les catholiques ou les protestants portaient ou pas les mêmes noms que les cathares. J'ai vu que les protestants avaient un taux d'homonymie cathare de 10 à 20% supérieur.
Mais il faut dire aussi que tu t'intéresses, tu l'as déjà dit, mais tu t'intéresses toujours aux minorités. Quand
minorité.
Il me dit que je vais dans un pays, il me dit « Ah, tu as rencontré telle communauté. Ah, tu as vu telle communauté. » Je dis « Non, les touristes, on ne voit pas. »
Les Molokans en Arménie.
Voilà,
ou les Yézidis en Arménie.
Et j'ai dit « Non, je suis passé à côté de Caen, mais je n'ai pas vu.
Ouais. »
Alors, pourquoi cet intérêt à continuer, hein? Bon, tu nous as expliqué pourquoi. Hein? Et puis cette confrontation au mal, très intéressant quand même pour un théologien, un pasteur, cette confrontation au mal et ce rapprochement des cathares qui en font une théologie, quoi, hein,
ouais.
Du mal. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as continué? Parce que tu aurais pu t'intéresser, tu nous expliquer ces trois accompagnements difficiles. Et puis bon, passer à autre chose. Mais non, là, tu as continué, tu continues à travailler au point d'être militant, parce que tu n'es pas qu'un érudit, tu es un militant très actif. On peut être militant, même toi, tu es un militant très actif. En rencontre, en conférence, sur les réseaux sociaux, hein,
oui.
Où l'on peut te suivre, je conseille de suivre...
Qatar et protestant.
Voilà, Qatar et protestant, il faut absolument suivre pour être au courant, et pour savoir, et pour voir comment Michel se bat pour le Qatar. Afin de défendre, ne pas oublier le catharisme. Quelle est cette énergie?
Oui, alors, en fait, donc, j'ai commencé par le lien sociologique, un travail sur la région toulousaine, et donc de Foix à Montauban, de Castres à Mazamé, les familles qui sont devenues protestantes, pourquoi? Enfin, elles ont plusieurs fois cité les anciens albigeois pour eux, pour ces familles.
C'est la différence entre albigeois et cathares, bon, tout le monde la connaît, mais pourquoi on parle des fois des cathares et pourquoi des albigeois?
C'est-à-dire qu'en fait, les protestants ont parlé d'eux au XVIe siècle en prenant le mot albigeois, c'était moins négatif que cathare. Le terme cathare existait, mais c'était péjoratif.
Vous voulez dire que le terme cathare a été inventé par l'Église catholique. Hein? Je veux dire, c'est pas eux, ça s'appelait pas les cathares.
Voilà.
Hein?
L'Église catholique a projeté sur les dissidents le terme cathare qui, à l'époque de Saint-Augustin, désignait les manichéens.
Voilà.
Donc, si on voulait brûler les hérétiques, il fallait les trouver manichéens, parce que d'après le code justinien, on ne pouvait brûler que les manichéens,
ouais.
Donc les cathares. Donc, les catholiques ont toujours dit, même à l'époque de Bossuet, ont toujours dit... Les déconstructionnistes disent toujours que c'est les occitanistes du 19e siècle qui auraient tous les défauts, et
ouais.
Qui auraient inventé, qui auraient repris le terme cathare, auraient inventé... Non, le terme existait à l'époque de Bossuet, on savait, puis il y avait un dominicain du XVIIe siècle, le père Benoît, c'était à Carcassonne, il disait les hérétiques, ce sont les cathares, c'est-à-dire des dualistes, c'est des gens dangereux,
oui.
qui croient en deux dieux, c'est pas du tout la théologie chrétienne. Alors que les protestants avaient tendance à dire, ben, ils en faisaient un peu des calvinistes, quoi, finalement.
Oui.
Et alors ils disaient, d'un côté du Rhône, ce sont les Vaudois, avec le Luberon, et puis de l'autre côté, ce sont des albigeois. Donc, c'est les dissidents qui préparent la réforme.
Oui, oui.
Voilà. Mais alors, donc, j'ai travaillé ça. La deuxième raison, c'est que j'ai réalisé que finalement, si on travaille avec les registres de l'Inquisition, etc., on voit qu'il y a vraiment une importance de ce mouvement. Enfin, de 20 à 90% d'hérétiques dans les villages autour de Toulouse, enfin, de Foix à...
80%, c'est énorme.
Ah oui, mais il y a des villages...
Pour le curé du village, ça va être catastrophique.
Ah ben, le curé du village pouvait être cathare aussi.
C'est
ce qui s'est passé à Montaillou, c'est ce qui s'est passé à Borne-Lauragais, à Verdun-Lauragais, Borne-sur-Tarn, entre Montauban et Toulouse. Donc il y a des lieux qui ont été vraiment fortement cathares et même le curé donc était, puisque il y avait beaucoup de membres du clergé catholique qui étaient dans l'hérésie.
Mais
et puis dans les villes, dans les grandes villes, enfin des Carcassonne, Albi ou Toulouse ou Foix, c'est que de 10 à 60%. Ça dépend. Ouais, ouais. Il y a des quartiers qui étaient, par exemple, à Toulouse, au début, c'était quand même un peu l'élite qui était cathare. Et puis, à la fin, au XIVe siècle, les derniers cathares, c'était dans les régions très pauvres, des gens qui étaient qui travaillaient dans des baraquements près de la Garonne.
Alors, tu parlais de l'élite. Bien souvent, en historiographie scolaire, on a une vision de l'élite cathare. C'est-à-dire que ce sont les seigneurs qui deviennent cathares. Hein. On voit les parfaits qui viennent dans les châteaux cathares, hein, qu'on veut plus appeler le Qatar, et qui sont intéressés par cette vision dualiste, qui, reconnaissons-le, est facile à appréhender quand même, hein, puisque quand on est dans la vie de tous les jours, on ne peut pas dire que le mal n'existe pas, quoi. Hein, oui. Donc voilà, c'est quand même facile. Et puis aussi en utilisant un côté politique contre les Français, c'est-à-dire les nobles du royaume de France, c'est-à-dire l'île de France, politique.
Oui.
Mais là, tu nous dis qu'en fait, des villages, etc., le peuple, lui, qui n'avait pas une vision politique, qui ne voyait pas la différence entre un seigneur du coin et un seigneur de France, était quand même intéressé par cette théologie, et qui parle plus quand même, parce que le mal, tout le monde le voit, quoi. Il suffit d'allumer son poste de télévision, quand il reste pas en permanence allumé, et c'est que le mal, quoi. Je veux dire, on nous dit jamais, tiens, le bien. Hein.
Et aussi, les paysans voyaient les difficultés. Il y avait la grêle au moment des orages, trop de neige l'hiver, de la sécheresse l'été, etc. Il parle beaucoup de loups. Il y a eu quelqu'un qui a été condamné devant l'inquisition de Pamiers, en Ariège, donc. Et en fait, il avait des pensées cathares, puis après, il disait, non, je pense que c'est tort, que c'est vous qui avez raison devant l'inquisiteur qui était l'évêque de Pamiers, et c'est vous qui avez raison. Et puis il s'est repris, il a dit non, quand même, le Dieu bon, il n'a pas pu créer le loup.
Oui, c'est ça, c'est la bête de Gévaudan et Qatar, quoi.
Parce qu'en fait, le loup avait mangé sa belle-mère. Ça voulait dire qu'il aimait bien sa belle-mère.
Oui,
quoi.
Mais
il a tenu bon.
Comme quoi, il argumentait. Il y a un dieu bon et un dieu pas bon. Voilà. Le dieu bon faisait qu'il aimait sa belle-mère.
Oui.
Et le dieu pas bon.
C'est celui qui avait aiguisé les dents du loup, quoi. Et l'appétit. Mais oui.
D'accord.
Et le catharisme, au début, ça a été quand même plutôt une religion, une dissidence chrétienne d'élite. C'était des gens qui faisaient un peu de la philosophie contre, finalement, les réformes successives de l'Église catholique au moment de la réforme grégorienne, et qui est resté plutôt comme une théologie gallo-romaine, finalement, qui était plutôt néo-platonicienne. C'est-à-dire qu'il y a une pensée dualiste, c'est-à-dire en disant que ce qui est spirituel est meilleur que ce qu'on voit ici sur la Terre. Alors que la théologie de la réforme grégorienne qui va structurer le catholicisme du Moyen-Âge va insister sur l'incarnation. C'est-à-dire ce qui se passe si on est soumis au Seigneur, au roi, aux abbés, etc., eh bien on est dans la volonté de Dieu, alors qu'eux avaient une pensée beaucoup plus spirituelle. Et alors, en fait, les cathares étaient représentés comme des philosophes, alors que, par exemple, les Vaudois, c'était plutôt une hérésie populaire.
Populaire.
Les Vaudois, c'était les gens qui allaient près des lépreux, qui soignaient les gens.
On voit pas de nobles Vaudois à l'esprit.
Et c'est des gens qui... Oui, ou alors s'ils étaient... Valdo venait d'une bonne famille, ben lui, il a quitté sa maison avec beaucoup d'argent, etc., pour rejoindre les pauvres.
Les pauvres,
Et c'était un peu de...
C'est une théologie du chemin, quoi.
Oui. Voilà. Et donc, un peu comme les ordres monastiques mendiants. Après, les franciscains et les dominicains ont repris ce que les Vaudois disaient, vivaient. Et puis, par contre, les cathares, c'était plutôt une élite. Mais quand ils ont été persécutés, c'est les petites gens qui sont restés cathares, alors que les seigneurs avaient plié devant le pouvoir catholique.
Ils ont plié, puis ils ont pu partir. Alors, vous écoutez l'émission « Et si on parlait des cathares » sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM, ou en DAB+, avec Michel Jas, spécialiste du catharisme, et Jacques Jaume. Aujourd'hui, Michel Jas, d'où est venu ton intérêt pour les cathares? C'était le thème de notre émission. Je vous propose une trêve musicale en écoutant Monségur Cathare.
Da Dai same conta l'istorio di un sambeguit per materro, dai same canta l'istorio di una volontà de ferre, di uno gioventù passato, di una libertà volgida del viel somi despertat, di una libertà perduto, sin senerezza mun segue. Dai same conta l'istorio di un sambeguit per materro, dai same canta l'istorio di una volontà de ferre, di uno gioventù passato, di una libertà volgida del viel somi despertat, di una libertà perduto, sin senerezza mun seguir, sapenso che vivere vuol dire, sin senerezza mun seguir. Segur i sets d'arie l'azul, segur i sets d'arie l'azul. Bacchi l'uro de los curbasses per los camis de Monferrier, bacchi l'uro de los curbasses, gran flume negre puiridie, del papola gran armado, del rei de Franço bandoliers, del domenique los purcasses. Amen, amen, dies ire. Sin senerezza mun seguir, sapenso che vivere vuol dire. Sin senerezza mun seguir, seguir i sets d'arie l'azul, seguir i sets d'arie l'azul. Ma chi l'uro della desfaccio li dei obrulo sul legni, ma chi l'albo della vittoria menan vostro luccio avei, minoritas contro l'imperi, indian de tutto l'asculus, descolonizaren la terra.
Vous écoutez ici On parlait des Qatar avec Michel Jass, une émission produite et animée par Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Michel, peux-tu nous raconter le mythe autour des Qatar et le secret qui les entoure ?
Ah ah ah. Oui. Enfin, moi, ce n'est pas ce qui me motive. Hein. Ce qui me motive, c'est plutôt la théologie des Qatars. Par exemple, ce que René Nelly disait à son époque, René Nelly, qui est donc avant Jean Duvernois, avant Michel Rocobert, avant Anne Brandon, mais c'est vraiment ces premiers penseurs qui ont redécouvert le qatarisme, c'est au XXe siècle. Et oui. René Nelly disait il faudrait que le catholicisme fasse une bonne cure de catharisme. Parce qu'il pensait qu'on trouvait dans le catharisme une théologie intéressante. Oui. Mais en dehors de cela, il y a eu la redécouverte dans les années 60 ou 80, etc., qui est plus mythologique. Et alors, donc, il y a le mythe du touriste qui veut voir, qui va trouver une ressemblance entre le catharisme qui est intéressant avec les beaux paysages, les Pyrénées, voilà, comme si c'était... Et là, je crois que c'est une erreur, parce que le catharisme ne se déduit pas des paysages de l'Aude ou des Pyrénées.
Dire, donc, on l'a amalgamé, parce que...
Il vivait avant les congés payés, les
oui, puis les Qatars. Les Qatars venaient d'autres pays où il n'y avait pas les paysages du sud de la France. Hein.
Oui, puis il ne faisait pas trop de planches à voile sur la Méditerranée, ni du ski sur les stations catalanes derrière l'Ocalypse. Mais c'est ce regard qu'on a. Alors là, il y a vraiment une erreur de dire ça. Et les Qatars n'avaient pas le sens, c'est assez étonnant, n'avaient pas tellement le sens de la géographie, la beauté du paysage. Par exemple, c'est Duvernois qui l'a dit plusieurs fois, c'est que dans les registres de l'Inquisition, parce que c'est énorme, c'est 16 registres, et chaque registre, c'est des milliers de pages. Quoi. Et donc, eh bien, on décrit plusieurs fois le passage de la région climat océanique, c'est vers Carcassonne, enfin vers Toulouse, Castelnaudary, et puis la région méditerranéenne vers Narbonne, Béziers, sans que les Qatars décrivent un changement de paysage. Peut-être parce qu'ils marchaient peut-être plus lentement, ou alors il y avait plus de forêts, il y avait un peu moins de garrigues.
C'est différent maintenant, oui. Mais, il y a pas l'autoroute, oui.
Mais ils n'étaient pas sensibles, ils étaient plutôt sensibles au fait que les gens avaient des moutons, des vaches, décrivent beaucoup de choses, l'agriculture, mais pas tellement un changement de paysage, alors que nous, très vite, sur l'autoroute, on voit qu'il y a deux pays.
On a des écrits cathares qui sont non théologiques et qui décrivent la vie de tous les jours aussi, alors donc...
Ah oui, oui, oui. Mais les registres de l'Inquisition, si, parce qu'ils racontent leur vie.
Ils racontent leur vie, oui. Donc,
Même j'ai une amie qui a écrit un livre sur les femmes cathares, Gwendoline Hanck, et qui parle, il y a un chapitre tout sur le sur que les inquisiteurs ont interrogé les dames sur savoir comment elles faisaient pour pas avoir d'enfants avec les herbes qu'elles prenaient.
C'est important ça pour les catholiques. Ouais.
Donc il y a alors, les mythes, et puis après il y a le mythe ésotérique. Donc le catharisme a été complètement écrasé et en dehors de la mémoire chez les protestants, parce que les protestants ont parlé des albigeois depuis le VIe siècle, mais en dehors de cette mémoire minoritaire, parce que les protestants c'est encore la deuxième minorité qui va être écrasée en France, personne ne parlait d'eux. Et alors quand on a recommencé à s'intéresser à eux, ce fut avec quelques erreurs. Et alors on a vu des grottes en Ariège, dans le Sabartès, à la région d'Axelles-les-Thermes, etc. Et alors dès qu'on voyait des ossements dans une grotte à Lombrive, etc., on pensait aux martyrs cathares. Alors que ça pouvait être des mammouths. Ou alors, enfin, les ours qui prenaient, les ours qui prenaient les restes de la nuit. Bon, voilà. Et alors même, il y a eu quelques erreurs, c'est que c'est Duvernoy qui le dit encore une fois, mais que Napoléon Peyrat, qui est un des premiers qui a découvert l'importance de Montségur, etc., il a visité toutes les grottes de l'Ariège, et c'était avant Bernadette Soubirous, et à Lourdes, il avait décrit une grotte à Lourdes en disant que c'est une grotte cathare. Enfin, l'historiographie ne l'a pas retenu, parce qu'après, il y a eu tous les pèlerinages et puis l'histoire très émouvante de Bernadette Soubirous. Mais alors, donc, on a dit aussi, ces châteaux, il y a un symbolisme solaire, parce que le lever à l'équinoxe, etc. Non, en fait, non, ça ne marche pas, parce qu'en fait, ce qu'on a vu comme particularité architecturale de ces châteaux cathares ne marche pas, parce qu'en fait, ces châteaux ont été souvent démolis en partie, tout ou en partie, et reconstruits. Donc, en fait, le symbolisme solaire, il existe aussi dans tous les châteaux forts de l'époque. Ça ne correspond pas au catharisme. Alors, on a parlé du trésor. Parce qu'en fait, donc, avant que Montségur soit repris, puis qu'il y ait le budget...
Oui, qu'il tombe.
Il tombe, bien, il y en a eu quatre qui sont descendus. Enfin, ils ont fait... C'était un peu...
Mais comment on le sait, ça? On a des témoignages. Hein.
Ah oui, mais dans les registres de l'Inquisition.
D'accord.
Il y a plusieurs registres qui parlent de... C'est là où Napoléon Peyrat a vu que Montségur, c'est quand même une histoire fantastique. Il y avait plusieurs évêques cathares, il y avait tout le clergé qui était caché là-haut, etc. Et puis après, il y a eu ce fameux bûcher en 1244. Et alors, le trésor. Alors, en fait, on sait que ces gens, ils sont allés à Toulouse, ils sont allés à la banque du Zalguier, on connaît même le nom, donc pour déposer l'argent. Et après, ils avaient des contacts avec la Lombardie, avec le catharisme italien, et cet argent, l'argent de l'Église, quoi. C'était pas des sommes importantes, mais il a été donné à l'Église cathare, occitane ou italienne, mais qui est occitane, réfugiée en Lombardie, etc., qui est parti là-bas.
Donc, les cathares italiens, ils sont devenus quoi? Ils ont été persécutés ou
ils ont, comme les occitans, ils ont abjuré, ils sont devenus catholiques. Ouais. Et aujourd'hui, ils ne savent pas qu'ils ont des... Par exemple, la ville de Coni, Cuneo, au-dessus du col de Tende, au-dessus de Nice, du côté italien, du Piémont italien, c'est certainement, Jean Duvernoy disait que c'était certainement une ville qui a été créée par les cathares occitans, en lien avec les cathares de Lombardie. Donc la région de Vérone aussi, c'était très cathare. Enfin, il y a eu tout le catharisme qui était très, très important en Italie. Et puis ceux qui ont voulu rester cathares au moment des dernières persécutions, au XIVe siècle, sont partis en Bosnie.
D'accord. Donc...
Parce qu'il y avait une église hérétique en Bosnie, le Bogomil.
Les Bogomil.
Et ils sont quand les Turcs sont arrivés, les catholiques ont été aidés par les Italiens, les orthodoxes par les Bulgares et par les Russes. Donc c'est devenu les Serbes, les Croates d'un côté, les Serbes. Et ben les Bosniaques, ils ont été obligés de prendre, de devenir musulmans, mais c'était un islam de façade. Et à la maison, ils lisaient des Nouveaux Testaments en slavon.
Oui. Et alors, bon, maintenant on a
parlé. Non, mais alors, le troisième mystère, le Graal, je peux en dire un petit mot.
Oui,
bah alors en fait, c'est Claude Fauriel, qui a été un érudit français et qui a traduit la chanson de la croisade. C'était le texte occitan, la canzo, qui a été traduit, il a traduit en 1837. Et il a voulu réhabiliter le catharisme et il a dit, mais certainement aussi au Moyen-Âge, il devait croire au Graal. Il a voulu, c'était un peu pour donner les lettres de noblesse au catharisme,
oui, oui.
Parce que tous les chevaliers à l'époque croyaient au Graal, ça fait partie de la mythologie des chevaliers.
C'est la quête,
et,
oui.
Et qu'en fait, non, c'est tout le contraire, parce qu'alors on a beaucoup brodé sur le Graal, mais c'est mon ami Michel Rocobert qui a montré, il a écrit Le Cathare et le Graal chez Privat. Et en fait, il a montré qu'en fait, c'était plutôt les croisés qui croyaient, qui avaient cette mythologie qui, plutôt chevaleresque, qui venait des chevaliers de la Table Ronde, etc., du roi Arthur, etc. Plutôt le nord de la France qui était imprégné par la mythologie du Graal, et pas du tout les gallo-romains du sud. Voilà.
Alors, donc, on vient de voir le mythe, hein, les mythes, et maintenant la vérité sur les cathares. Quelle est leur vérité ?
Ah ben alors c'est facile, la vérité sur les cathares, c'est Nelly, Jean Duvernois, Michel Rocobert, l'épopée cathare, Anne Brenon, qui a énormément...
Ce sont des auteurs tout ça.
Des
hein.
auteurs.
Et Michel Jass.
Ouais, bon, oui, alors j'ai écrit... il y a une petite vidéo que vous pouvez trouver sur Internet en disant... que j'ai pu faire. Enfin, les cathares sont des chrétiens comme les autres.
Ouais.
Donc c'était les chrétiens. Donc aujourd'hui, où on oublie complètement le christianisme, on ne comprendra rien au catharisme.
Oui, il faut être chrétien pour bien comprendre le catharisme. Voilà. Sinon, ça, c'est, on ne peut pas... Donc il faut lire, c'est Nelly. Enfin, moi, j'ai beaucoup lu
Nelly.
Oui.
Formidable. C'est lui qui
ça.
Disait, il faut que le catholicisme fasse une bonne cure de catharisme.
Oui, mais il faut que tout le monde fasse une cure de tout. Quoi. Je veux dire, il faut être ouvert à tout. Quoi.
Non, mais surtout du catharisme.
Eh bien, très cher Michel, merci infiniment pour ton intérêt sur les cathares. Et ton érudition, hein, tu nous donnes de la lecture, hein, des érudits, des écrivains, qui ont embelli notre, tout ça nous a embelli notre deuxième émission. Et si on parlait des cathares, pourrais-tu nous donner le titre de ton deuxième livre sur les cathares, ce qu'il abordait ?
Ah, donc j'en ai écrit six hein, sur le sujet.
Et quand je vous dis que c'est un auteur spécialiste des cathares, quand même six livres sur les cathares.
Oui, mais il y en a qui sont petits, quoi.
Oui,
mais
bon,
et j'en ai mis les deux plus importants, je les ai mis sur un site internet.
Qui est lecture gratuite.
Gratuite, parce que
c'est très bien, ça.
J'ai les droits, etc. Mais alors, mon deuxième livre, c'est Incertitude, les cathares à Montpellier. Donc j'ai travaillé le catharisme du point de vue de Montpellier. Parce que là, je savais qu'il y avait Alain de Montpellier, on va l'appeler de Montpellier, mais il s'appelait Alain de Lille avant, il vivait à Paris, et qui a été un théologien, un grand théologien cistercien, qui est venu à Montpellier pour travailler, pour répondre au catharisme, pour contredire le catharisme. Il était proche de l'abbé de Saint-Gilles, et donc il y a eu tout un milieu catholique à partir de Montpellier. Et Montpellier va être favorisé par la croisade des Albigeois contre Toulouse, finalement. Donc, les rapports de force...
Oui, parce que Toulouse est au milieu. Oui.
Voilà, et Toulouse va être... Et Carcassonne, et Béziers, tout ça, vont être défavorisés par la croisade et par l'Inquisition. Et Montpellier va être soutenu, en même temps qu'Aigues-Mortes, finalement. Et alors, donc, j'ai travaillé ça, et puis avec la question de savoir si on a quelques indications de présence cathare à Montpellier. Et malheureusement, il y a eu un historien... paix à son âme, il est décédé maintenant, mais que j'ai connu, mais il a pas lu mon livre et il a critiqué, et sa critique est sur Internet. Enfin, bon,
ah bon, il a pas lu, mais
il a
critiqué.
Pas lu. Ouais.
Bon, ça arrive, ça montre quand même que ton livre est intéressant. Du moment qu'il y a une critique, c'est que c'est intéressant. Du moment que quelqu'un critique, c'est que...
Merci pour cette consolation, pas au sens de cathare.
Non, mais c'est une réalité. Je veux dire, quand quelqu'un est critiqué, c'est qu'il a dit quelque chose d'intéressant. Sinon... Alors, merci encore beaucoup à toi, Michel, et à très vite pour une nouvelle émission. Ici, on parlait des cathares. Et comme on le dit en occitan, adeus, sias, et al cop, quen ven.